Chapitre 9. Venise. Monsieur Denon. Le mariage du doge avec la mère. Madame Marigny. Les palais. Le Tintoret, Paccherotti. Improvisateur. Le cimetière. Vicenze. Padoue, Vérone. Les conversazioni. Je brûlais du désir de voir Venise où j'arrivais la veille de l'Ascension. Quoi qu'il m'eût été dit jusqu'alors sur l'aspect extraordinaire de cette ville, mes yeux seuls m'en donnèrent la juste idée et j'avoue qu'il me surprit autant qu'il me charma. À première vue, on croit n'apercevoir qu'une ville submergée. Mais bientôt, ces superbes palais, bâtis dans le style gothique, dont ces beaux canaux baignent les murs, offrent l'effet le plus grandiose et le plus ravissant par son originalité. J'admirais beaucoup le pont du Rialto, qui est d'une seule arche de 89 pieds de longueur, et je me souviens qu'en passant dessus, je vis un pauvre homme, bien vieux, raclant sur un mauvais violon et faisant chanter un petit garçon de 5 ou 6 ans qui sanglotait. Peut-être ce pauvre petit enfant mourait de faim. Aussi, je m'empressai de lui donner une petite somme. Car sous ce beau ciel et dans cette belle ville, je voulais que tout le monde chantât gaiement. De même, je fus quelque temps sans m'accoutumer à cette quantité de barques noires qui remplacent les voitures, dans lesquelles on s'embarque et l'on débarque continuellement à la porte de toutes les maisons. J'aurais voulu que leur couleur fût moins triste, mais les ambassadeurs seuls ont des barques de toutes les couleurs. Monsieur Denon, que j'avais connu à Paris, ayant appris mon arrivée, vint me voir aussitôt. Son esprit et ses connaissances dans les arts faisait de lui le plus aimable cicérone, et je me réjouis beaucoup de cette rencontre. Dès le lendemain, jour de l'Ascension, il me conduisit sur le canal où se faisait le mariage du doge avec la mère. Le doge et tous les membres du Sénat étaient sur un bâtiment doré en dedans et en dehors, appelé le Bucentaure. 1000 barques, dont plusieurs portaient des musiciens, l'entouraient. Le doge et les sénateurs étaient vêtus de noir et coiffés de perruques blanches à 3 marteaux. Lorsque le Bucentaure fut arrivé au lieu fixé pour la célébration du mariage, le doge tira de son doigt un anneau qu'il jeta dans la mer et, dans le même instant, 1000 coups de canon instruisirent la ville et ses environs de cet hymen solennel qui se termine par une messe. Une foule d'étrangers assistait à cette cérémonie. Je trouvai là, entre autres, le prince Auguste d'Angleterre, ainsi que la charmante princesse Joseph Monaco, qui s'apprêtait alors à retourner en France pour retrouver ses enfants, et que j'ai revu à Venise pour la dernière fois. Le soir de la fête, nous allâmes voir la lutte des gondoliers. On ne saurait se faire une idée de l'adresse et de l'activité de cette espèce d'homme. C'est un spectacle fort amusant. Plus tard, la place Saint-Marc fut illuminée, ainsi que la foire qui l'entoure. L'illumination et la foire ont lieu pendant 15 jours. Le lendemain, M. Denon me présenta à son amie, Madame Marigny, qui, depuis, a épousé le comte Albrigi. Elle était aimable et spirituelle. Le soir même, elle me proposa de me mener au café, ce qui me surprit un peu, ne connaissant pas l'usage du pays. Mais je le fus bien davantage quand elle me dit « Est-ce que vous n'avez point d'amis qui vous accompagnent ?» Je répondis que j'étais venue seule, avec ma fille et ma gouvernante. « Eh bien, reprit-elle, il faut au moins que vous ayez l'air d'avoir quelqu'un. Je vais vous céder, monsieur Denon, qui vous donnera le bras, et moi je prendrai le bras d'une autre personne. On me croira brouillée avec lui, et ce sera pour tout le temps que vous séjournerez ici, car vous ne pouvez pas aller sans un ami. » Tout étrange qu'était cet arrangement, il me convint beaucoup, puisqu'il me donnait pour guide un de nos Français les plus aimables, non sous le rapport de la figure, il est vrai, car M. Denon, même très jeune, a toujours été fort laid, ce qui, dit-on, ne l'a pas empêché de plaire à un grand nombre de jolies femmes. Quoi qu'il en soit, mon ami me conduisit d'abord au palais pour y voir les chefs-d'œuvre que Venise possède et qui sont en grand nombre. Dans la plus grande salle des bâtiments de la confrérie, on s'arrête avec délice devant les belles pages à fresques peintes par le Tintoret. Le crucifiement surtout est admirable, et ce n'est qu'à Venise qu'on peut apprécier ce grand peintre, qui réunit dans ses belles compositions le dessin, la couleur et l'expression. Il faut aussi remarquer dans la première salle la fuite en Égypte. Le paysage en est superbe. Nous visitâmes ensuite les églises, qui sont remplies des plus beaux ouvrages du Tintoret, de Paul Véronèse, des Bassans et du Titien. C'est dans l'église de Saint-Jean et Saint-Paul qu'on voit le martyre de Saint-Pierre, composé de trois figures et de deux anges. Toutes ces figures sont pleines d'expression et le paysage est ravissant. L'église Saint-Marc, dont le lion est le symbole, est du style gothique. Les arcs de la façade sont soutenus par une quantité de colonnes en marbre et en porphyre. Les chevaux dorés, si fameux, ajoutent à ces ornements. Mais ces chevaux, quoique antiques, sont bien loin d'être parfaits. On les a vus à Paris. Quant à l'intérieur de l'église, il est impossible de détailler toutes les richesses qu'il renferme en tout genre. Ses voûtes d'or, ses parois de jaspe, de porphyre, d'albâtre, de verre antique, ses tableaux, ses bas-reliefs font de Saint-Marc un véritable trésor. Monsieur Denon me mena aussi chez un ancien sénateur. Nous vîmes là une belle Danaé du Corrège, sujet que ce peintre a répété plusieurs fois, et 12 portraits au pastel de la Rosalba qui sont admirables pour la couleur et la vérité. Ces portraits, étant ceux de la famille et du sénateur, n'ont jamais été déplacés et ils sont conservés à tel point qu'ils ont encore toute leur fraîcheur. Un seul suffirait pour rendre un peintre célèbre. La société que je fréquentais le plus à Venise était celle de l'ambassadrice d'Espagne qui avait mille bontés pour moi. Elle me mena au spectacle pour le début d'une belle actrice, âgée de 15 ans au plus, que son chant et surtout son expression rendaient étonnante. J'assistais aussi au dernier concert que donnait Paquerotti, ce célèbre chanteur, modèle de la grande et belle méthode italienne. Il avait encore tout son talent, mais depuis le jour dont je parle, il n'a jamais chanté en public. Je puis dire néanmoins qu'aucune musique n'égalait celle que j'ai entendue de même à Venise dans une église. Elle était exécutée par des jeunes filles et ses chants si simples, si harmonieux, chantés par des voix si belles et si fraîches, semblaient vraiment célestes. Les jeunes filles étaient placées dans des tribunes élevées et grillées. On ne pouvait les voir, en sorte que cette musique venait du ciel, chantée par des anges. Après le concert de Paquerotti, on nous prévint qu'il y avait, dans une salle près du théâtre, un improvisateur fameux. Je n'en avais jamais entendu, et cet homme me fit l'effet d'un énergumène. Il courait de long en large, criant ses improvisations d'une telle force qu'il en suait à grosses gouttes. Il débitait si vite, outre cela, que ma fille, qui parlait fort bien l'italien, n'entendait pas un mot. Il nous faisait peur tant il avait l'air furieux. Quant à moi, je le crus fou, et tout son talent me parut se réduire à une pantomime effrayante. Monsieur Denon, ayant vu ma Sibylle, me pria instamment de la lui laisser exposer chez lui, afin de la montrer à ses connaissances. Il s'ensuivit que beaucoup d'étrangers allaient revoir ce tableau, qui eut du succès à Venise, à ma vive satisfaction. Monsieur Denon m'avait aussi prié de faire le portrait de son amie, Madame Marini, et je pris grand plaisir à peindre cette jolie femme, attendu qu'elle avait infiniment de physionomie. Avant de quitter Venise, je voulus voir le fameux cimetière qui est situé aux environs de la ville. Un ami de M. Denon m'offrit de m'y conduire et nous convînmes de faire cette course au clair de lune. Le soir même, nous prîmes une barque qui nous conduisit en face du cimetière des Anglais. Celui-ci est fort simple. Les tombes sont de pierre ou de marbre blanc, toutes debout. La lune, entourée de nuages, cessait parfois de donner sa lumière, et ces tombes alors paraissaient se mouvoir. Notre but principal était d'entrer dans l'enceinte des tombeaux vénitiens, dont la plupart datent de la fondation de Venise. Mais, hélas, la porte était fermée. Nous fîmes une partie du tour de l'enceinte et nous eûmes le bonheur de trouver un pan de mur abattu. Nous profitâmes aussitôt des pierres tombées pour en former un escalier qui nous facilita l'entrée de ce vaste séjour des morts. l'aspect de ce lieu vénérable nous imposa le plus profond silence. Nous marchâmes en tous sens à travers ces tombes colossales dont nous ne pouvions apprécier les détails à la pâle clarté de la lune, et quand nous eûmes vu tout ce qu'il nous était possible de voir, nous pensâmes à retourner à Venise. Mais il fallait pour cela retrouver notre brèche. Pendant près d'une heure, nous la cherchâmes inutilement. Aucune habitation n'est voisine du cimetière. Nous entendions seulement la cloche d'une église assez lointaine, dont le son était fort mélancolique. Nous ne trouvions pourtant pas très gai de rester là toute la nuit. Enfin, j'aperçus la brèche et nous sortîmes, charmés d'aller retrouver des vivants. Nous ne rencontrâmes que deux soldats en faction qui nous laissèrent passer sans crier « qui vive ?». Ils nous prirent sans doute pour deux amants, ce qui est toujours fort respecté en Italie. Nous nous hâtâmes de rejoindre notre barque et nous ne rentrâmes dans la ville qu'à 3 heures du matin. J'ai conservé de Venise un souvenir agréable, quoique depuis j'y ai perdu 35 000 francs. Voici comment. J'avais placé sur sa banque mes économies de Rome et de Naples que ma négligence m'empêcha de retirer à temps. M. Sacco, que j'avais connu à Naples, secrétaire d'ambassade auprès du baron de Talleyrand et qui, sous la République, a été ministre de France à Florence, avait la bonté de s'occuper de mes affaires afin que je pusse me livrer entièrement à ma peinture. Comme il prévoyait mieux que moi ce qui devait bientôt se passer en Europe, il ne cessait de me conseiller d'écrire à Venise pour retirer mes fonds. « Bah, lui disais-je, des républicains n'attaqueront pas une république. » Il vint un matin, entre autres, comme il se trouvait sur ma table plusieurs lettres que je venais d'écrire pour Paris. « J'espère bien, dit-il, que vous avez là une lettre pour Venise. »« Non. À qui donc écrivez-vous tout cela ?»« À mes amis. » « Est-ce qu'il y a des amis ?» répondit-il en hochant la tête. On voit que le bon monsieur Sacco n'était pas sentimental, mais il était mon maître en prudence et en politique. Car lorsque l'armée française, commandée par le général Bonaparte, s'empara de Venise, les chevaux dorés, les tableaux, les trésors furent emportés, ainsi que la banque. J'appris que Bonaparte avait dit à monsieur Haller, le banquier, qu'il voulait que l'on conservât mes fonds et que l'on m'en payât la rente. Mais, ainsi qu'il arrive souvent en pareil cas, Bonaparte éloigné, les assertions réitérées de M. Haller ne purent faire respecter l'ordre du général. Mon argent fut transporté à Milan et je n'ai jamais touché qu'un revenu de 250 francs pour un fonds de 40 000. Venise n'en est pas moins une ville bien curieuse à voir et que je suis charmé d'avoir vue. Je m'arrêtai à Vicence, qui date à sa fondation de 380 ans avant Jésus-Christ. Ces beaux palais, parmi lesquels on remarque celui des comtes Chieracati, ont pour la plupart été bâtis par le Palladio et sont d'une élégance remarquable. La rotonde du marquis de Capres mérite aussi d'être citée. Elle est située sur une éminence et Palladio en a fait un temple aux quatre côtés duquel se trouvent 4 péristyles, ayant chacun 6 colonnes qui soutiennent un fronton. Au milieu est une salle ronde, entourée d'une galerie qui joint ses péristyles, dont les 4 points de vue sont admirablement diversifiés. À la Madone del Monte, on plane sur de belles campagnes, enrichies des plus beaux arbres. Dans l'intérieur de cette église, on voit un magnifique tableau de Paul Véronèse. Il est d'une si belle couleur et peint avec une telle vérité que les figures se détachent du fond. À Sainte-Corone, le baptême de Jésus, par Jean Bellin, est parfait pour le dessin. Le théâtre de Vicenza est du style antique. C'est le chef-d'œuvre du Palladio qu'il a construit d'après les proportions et sur les dessins de Vitruve. La traversée de la Brenta offre l'aspect le plus agréable. D'un côté, ses bords sont ornés d'une multitude de palais du style de Palladio, qui font l'effet de temples et dont les formes grandioses se répètent dans les eaux. Je suis allé dîner dans un de ces palais, chez le marquis L'escalier même était d'un style qui me charma. Le propriétaire de cette belle habitation me fit une galanterie à laquelle j'étais loin de m'attendre. Il me reçut dans une galerie où se trouvait posée sur une table une très grande quantité de gravures. Une seule était placée sans dessus-dessous sur toutes les autres. La curiosité me porta bien vite à la retourner et je vis mon portrait que l'on venait de graver d'après celui que j'avais donné à Florence. On voit encore à Vicence la maison du Palladio qui est un modèle d'élégance et de simplicité. Padoue est aussi située sur les bords de la Brenta. Cette ville est bien ancienne, s'il faut en croire les habitants qui prétendent qu'elle a été bâtie par Anténor le Troyen. Le palais de justice ou l'hôtel de ville est une des plus belles fabriques de l'Europe. Le salon a 100 pas de long sur 40 de large. Il est couvert de plomb, sans autre soutien que la muraille. On y voit les 12 signes du zodiaque et dans une niche, une vierge qui a beaucoup de simplicité et de naturel. On trouve aux Augustins des fresques de Montigny, dont les figures et tous les accessoires sont de la plus grande finesse. L'église Saint-Antoine, qui est de style gothique, renferme un nombre infini de tombeaux, de bas-reliefs et tant de marbre travaillé qu'elle en est fatigante. Mais les fresques de Giotto qu'on y voit sont très bien composées. L'attitude simple et l'expression des figures se rapprochent du style des anciens. La couleur est souvent celle du Titien, sans pourtant en avoir la perfection. En sortant du cloître, on remarque plusieurs tombeaux très anciens dont les figures sont pleines de simplicité et la statue équestre d'Érasme de Narni, général vénitien. Dans l'église de Saint-Jean-Baptiste, on admire les évangélistes dans le désert, un des plus beaux tableaux du Guido. À la cathédrale, dans la sacristie, une vierge du Titien bien conservée. À Saint-Jean, plusieurs fresques du Titien représentant divers miracles. Les têtes, pleines d'expression, sont d'une belle couleur et la touche, le ton du paysage et du ciel sont admirables. Une autre fresque gothique est aussi très remarquable par la vérité des têtes et l'attitude des personnages. Je passai toute une semaine à Vérone. C'est une grande ville dont les rues sont spacieuses et bien alignées et les maisons fort belles. J'allai voir d'abord les restes de l'amphithéâtre qui a été bâti sous le règne d'Adrien et que les Gaulois ont détruit. Puis le dôme de l'église qui est fort belle et dans laquelle se trouve un tombeau antique dont les ornements sont du plus fin travail. Comme en Italie, les églises sont ouvertes toute la journée, je fis ma tournée. J'entrai dans celle de Saint-Georges où le maître-autel est décoré d'un beau tableau de Paul Véronèse et d'un autre tableau de ce peintre à droite en entrant. J'y vis aussi une vierge et deux évêques de Chieralino ainsi qu'un groupe d'anges. Mais ce que je remarquai surtout du même maître est un tableau de trois figures qui représente un concert. Outre qu'il est peint avec le plus grand soin, les figures sont pleines de grâce et de naïveté. L'église de Saint-Amastrasie est tout à fait de style gothique, avec des colonnes d'une belle proportion qui produisent un grand effet. Toutefois, je lui préfère celle de Saint-Zémon. Celle-ci est très vaste et le jour, qu'il éclaire seulement par en haut, lui donne un aspect mystérieux et mélancolique. Je me trouvais seule dans ce temple silencieux et je me plaisais à me livrer aux idées religieuses et douces qui s'emparaient de mon âme. Tous les soirs, pendant mon séjour à Vérone, j'allais à la Conversazione. On sait que c'est ainsi qu'on appelle les assemblées en Italie. Là, nous étions réunis en assez grand nombre dans une galerie, les femmes assises de chaque côté et les hommes se promenant au milieu. La vivacité, la gesticulation italienne rendent ces réunions assez piquantes à observer. En outre, j'ai rencontré la comtesse Marioni, sa sœur et la marquise de Strozzi, qui toutes trois étaient fort spirituelles. Pendant les 8 jours que j'ai passés à Vérone, j'ai délogé 2 fois. Je m'étais d'abord installée dans un petit appartement, après avoir demandé si l'on n'y entendait point de bruit. « Aucun », avait répondu l'hôtesse. Voilà que le lendemain matin, à 6 heures, j'entends sur ma tête un bacchanal épouvantable. On sautait, on jouait du violon. Je demande ce que ce peut être. « Madame, me dit mon hôtesse, ce n'est rien de fâcheux. » Le maître de danse de la ville loge ici dessus, et tous les jours, les jeunes gens viennent prendre leurs leçons pendant 2 heures, voilà tout. Je trouvais que c'était assez pour me décider à chercher ailleurs.